France Inter, franceinter.com.
Mon travail à moi, j'y risque ma vie. Et ma raison y a sombré à moitié. Dernière lettre de Van Gogh à son frère, 23 juillet 1890. Ans d'histoire. Aux Pays-Bas, où il est né en 1853, en Belgique, auprès des mineurs du Borinage, à Paris, avec les impressionnistes, à Arles, avec Gauguin, et à Auvers-sur-Oise, où il s'est suicidé à l'âge de 37 ans, Van Gogh a peint jusqu'à la folie des tableaux qu'il n'a jamais vendus de son vivant et qui valent aujourd'hui des fortunes. Mais pour lui, l'art n'était pas un exercice de style. Comme Victor Hugo ou Zola l'ont fait dans leur roman, Van Gogh a mis dans sa peinture toute la révolte et la compassion que lui inspirait la misère qu'il avait découverte lorsqu'en 1878, bien avant de devenir peintre, il avait été pasteur dans une des régions les plus pauvres de Belgique.
Je dois obéir à cette vocation. Je veux être au service des malheureux. Je veux leur apporter la divine parole. Et même si je n'ai pas l'aptitude, il doit bien y avoir un moyen quelconque de servir. N'y a-t-il donc pas un poste où personne ne voudrait aller? Je ne cherche rien d'autre, mais employez-moi, employez-moi.
Monsieur Van Gogh, connaissez-vous cette partie de la Belgique? Non. C'est une région minière que l'on appelle le Borinage. Cette région est habitée par des familles de mineurs qui comptent parmi les plus déshérités qui se puissent trouver. Si vous êtes sincère dans votre désir de venir en aide aux malheureux, voici votre chance.
David Asio, bonjour.
Bonjour.
Dans la biographie passionnante de Van Gogh que vous avez publiée chez Gallimard dans la collection Folio, vous insistez quand même beaucoup sur l'importance du séjour de Van Gogh dans les mines du Borinage. C'est là, dites-vous, qu'il a découvert sa vocation d'artiste à 25 ans. C'est une vocation tardive.
Oui, très tardive. En fait, après un séjour à Londres où il avait été amoureux et d'une jeune femme et qui avait refusé ses avances, il ne s'en était pas remis. Il était dans une dépression très longue qui a duré plusieurs années. Et quand après bien des péripéties, il est arrivé dans le Borinage et qu'il est descendu dans la mine, quand il a vu cette misère effroyable, cette exploitation terrifiante des hommes et cette déshumanisation, ça lui a remis les pendules à l'heure. Il a toujours eu besoin d'être en face d'une hyper-réalité pour mieux saisir sa propre réalité quand il était en souffrance.
À ce moment-là, il était pasteur, ou plutôt évangéliste. Il a eu des difficultés avec des protestants. Mais alors, cette vocation tardive, il était pasteur, mais avant d'être pasteur, il était encore autre chose, il était vendeur de tableaux. C'est pour ça d'ailleurs qu'il était à Londres, dans une maison où l'avait placé son oncle, qui était lui-même, et qui s'appelait la maison Goupil.
Oui, son oncle était un marchand richissime, il s'appelait Vincent Van Gogh, comme lui d'ailleurs, il était son parrain, et cette maison était une internationale qui avait des succursales à Paris, à Londres, en Hollande, à Bruxelles, un peu partout, et il avait été nommé très très jeune pour lancer la succursale de Londres. Il était évidemment beaucoup trop jeune et c'est là qu'il a rencontré Eugénie Loyer. Il est tombé amoureux fou d'elle sans rien lui dire et ça a été une catastrophe parce qu'il était incapable de tourner la page et d'accepter ce refus.
Un amoureux transi également un peu plus tard auprès de la fille d'un pasteur, Kate Voss, d'ailleurs pour laquelle il va même se brûler la main. C'est vraiment un homme excessif, enfin un jeune à l'époque encore, un jeune homme excessif en tout. C'est peut-être ça qui faisait peur à Kate Moss, comme oui. À Kate Voss ou à Eugénie.
Oui, elle était sa cousine germaine, puisque la mère de Kate Voss et la mère de Van Gogh étaient des sœurs. Et elle était la fille du pasteur Stricker, qui était un des plus grands pasteurs d'Amsterdam. Et comme elle a refusé de le voir une fois qu'il lui a déclaré son amour, il est allé chez elle et elle n'était pas là, évidemment, elle avait fui. Et il voit le pasteur et il dit « Laissez-moi la voir le temps que je puisse garder ma main au-dessus de la lampe. » Et sa main est en train de brûler, pas plus de quelques secondes. Et le pasteur s'approche très calmement et éteint la lampe. Et il lui dit « Vous ne la verrez plus. »
C'est incroyable. Alors, il est lui-même, il va devenir pasteur. Est-ce que c'est par dépit amoureux, en quelque sorte, ou il y a une véritable vocation religieuse ?
Non, il a une vocation. Alors, était-elle et devait-elle s'exprimer dans des termes religieux spécifiques ? C'est une autre chose. Son père était pasteur, son grand-père était pasteur. Il y a plusieurs pasteurs dans la lignée des Van Gogh, qui n'est pas une petite famille. C'est une famille très puissante de Hollande, qui est dans les cris et la haute culture depuis des siècles. Et il cherche surtout à transmettre son amour des hommes et son amour de la nature. Il pensera le faire à travers le pastorat et puis en fait il le fera à travers la peinture.
Et à partager aussi leur souffrance. Quand il va dans le borinage, il va descendre dans la ville. Il va comme évangéliste, mais il participe, il partage la vie des mineurs qui d'ailleurs, dont la misère le scandalise.
Oui, il descend dans la mine, il en fait une description. Plusieurs années avant l'apparition du Germinal de Zola, qui est absolument extraordinaire et que j'ai cité dans le livre presque intégralement. Et quand il voit cette misère, il va se donner à fond pour ces mineurs. Il déchire ses chemises pour en faire des pansements, il donne ses chaussures, il donne ses vêtements, il donne ses couvertures, il devient une sorte de clochard, ce qui n'est pas du tout bien vu par la hiérarchie religieuse. Et surtout, voyant cette misère, il veut témoigner, et il veut témoigner par le dessin. Et c'est ainsi que va naître sa vocation, c'est au contact de cette misère extrême.
Et qui le scandalise, comme d'ailleurs on le voit dans toutes ses premières peintures, comme Les mangeurs de pommes de terre, peint par Van Gogh en 1885.
Tous ces derniers mois, je me suis efforcé de trouver un sujet, efforcé de dessiner non pas tellement des mains, mais des gestes, non pas tellement des visages, mais des expressions d'hommes et de femmes qui connaissent le sens du labeur. Je veux donner l'idée que ces gens, assis le soir autour d'un plat de pommes de terre, ont labouré le sol avec ces mêmes mains qu'ils mettent dans le plat et qu'ils ont honnêtement gagné leur nourriture. Je veux faire un tableau qui sente le lard et la fumée, un tableau qui est la bonne couleur noire de notre terre hollandaise.
Pour Van Gogh, David Asiaux, on le voit bien d'après cet extrait d'un film qui reprend d'ailleurs exactement des mots de Van Gogh dans sa correspondance avec son frère. On voit bien que dès le début, peindre, ce n'est pas seulement étaler des couleurs sur un tableau.
Non, c'est transmettre son amour de la nature, de l'humanité. Il a un amour infini de l'humanité, il le dit à plusieurs reprises dans les lettres, même une fois qu'il a abandonné toute vocation religieuse ou même qu'il voue les pasteurs aux gémonies après plusieurs difficultés qu'il a avec eux et quand il rompt quasiment avec son père, pas tout à fait, mais enfin il s'en va parce qu'il n'a pas voulu assister à la messe de Noël dans le village et son père est pasteur et ce n'est pas possible, quoi, que le fils du pasteur ne vienne pas à l'église, c'est pas possible, alors le pasteur le met dehors.
Pasteur scandalisé aussi par sa liaison, parce que quand vous dites l'humanité souffrante, ce sont les paysans, ce sont les mineurs du borinage, c'est aussi une prostituée, sienne, auprès de laquelle il va vivre, qui va abriter en quelque sorte, et d'ailleurs qui va lui inspirer ce que vous considérez comme son premier chef-d'œuvre que l'on voit reproduit dans votre livre, David Asiaux, qui s'appelle Sorrow.
Sorrow, oui. C'est
la peine, je crois, en anglais.
Oui, là. C'est une prostituée qu'il a trouvée comme ça dans la rue. Elle était enceinte, elle avait un enfant et elle était alcoolique. Et elle était en perdition, c'était une loque. Il l'a ramassée, il l'a soignée, elle a posé pour lui comme modèle et il a voulu l'épouser. Et il dit, parlant de son action pour la... pour la sauver. Tout homme qui vaut le cuir de ses chaussures en aurait fait la même chose. Et il veut l'épouser, évidemment, le clan Van Gogh, où il y a des pasteurs, le vice-amiral de la flotte hollandaise et d'autres personnages considérables, marchand de tableaux, son oncle, qui a la cour des Pays-Bas parmi ses clients, ne peuvent pas accepter que l'un de leurs descendants épouse une prostituée. Nous sommes au 19e siècle. Ça signifie quelque chose de très important.
Et ça scandalise toute sa famille, et même d'ailleurs son frère Théo, auprès duquel Van Gogh se rend à Paris en 1886.
Je vais venir à Paris.
Quoi? Je ne crois pas que tu sois prêt.
Ah, et quand serais-je prêt, à ton avis?
J'en sais rien, jamais probablement.
Je vais te proposer un arrangement commercial. Tu me verseras ma pension chaque mois, et en échange, je te remettrai tout ce que j'ai peint. Comme ça, quand on me demandera si je vide ma peinture, j'aurai le droit de dire oui. Je crois que quand on fait quelque chose, il faut le faire convenablement.
Mais quoi? Qu'est-ce que tu veux faire convenablement?
Je veux être peintre. Qu'est-ce que tu en penses?
Pas grand-chose.
C'est quand même mieux que la merde que tu vends chez Goupil, non?
Je t'en prie, nous ne vendons pas que de la merde, et tu le sais aussi bien que moi.
Des croûtes de merde? Voilà comment on appelle ça chez moi.
Nous vendons des Corot, des Millet et d'autres grands artistes.
Ah ouais, Millet, Millet, ça c'est
pas si longtemps.
Parlons de Millet. Millet, c'est de l'art, Millet est près de la vie. Mais ici aussi, la vie est là. Et Dieu est là. Dieu est dans toutes choses. Mais sûrement pas dans les églises. Et surtout pas dans notre maudite famille.
Et c'était en 1886. À ce moment-là, Van Gogh va rejoindre son frère Théo à Paris. Théo qui travaille dans la maison Goupil, que lui, Vincent Van Gogh, a quitté. Et alors, il a pris en aversion toute sa famille. Au fond, dit-il, dit Van Gogh, je ne suis pas un Van Gogh. Et vous le faites remarquer, d'ailleurs, David Asio, toutes ses toiles sont signées de son seul prénom, Vincent, pas Vincent Van Gogh.
Oui, il a parfois invoqué la difficulté pour les étrangers de prononcer son nom Van Gogh. Mais quand on lit sa correspondance de très près, on voit qu'il refuse, mais avec la dernière violence, d'appartenir à cette famille à partir d'un certain moment. Et il dit « je ne suis pas un Van Gogh ». Et il dit même à Théo « si tu te conduis en Van Gogh avec moi, ce sera la rupture ».
Parce que alors là, Théo, il faut en parler, bien sûr, il va jouer un rôle essentiel pendant toute sa vie à Van Gogh, dans son œuvre. Théo, c'est énorme. D'abord, c'est une correspondance à partir de laquelle on sait beaucoup de choses sur la vie de Van Gogh. Et puis surtout, c'est le mécène, enfin le mécène si on peut dire, parce que Théo lui-même n'a pas énormément d'argent, mais il va entretenir son frère pendant toute la durée de son existence, alors qu'il ne vendra aucune de ses toiles.
Oui, il entretient son frère avec ses moyens modestes, mais il y a plus, il va le pousser dans la direction où il l'a été. Il n'a pas été qu'un mécène qui donnait de l'argent, il le fait venir à Paris, il lui fait voir les impressionnistes, il lui fait découvrir Monticelli, et tous ces peintres auront une importance énorme dans la suite de la peinture de Vincent, qui se remettra à peindre d'une façon très différente à partir de Paris. Et donc Théo n'est pas seulement un mécène au sens strict, c'est beaucoup plus que ça. Et Van Gogh dira toujours à Théo qu'il y a une part de lui dans sa peinture et que c'est une œuvre commune. Sa peinture est une œuvre commune.
Bah Vincent n'aurait pas pu peindre, en fait, sans cette aide que lui apporte son frère.
Sans cette aide, oui, il aurait sombré sans doute très très vite.
Le rôle, l'importance de Paris, David Asio, il y rencontre, vous venez de le dire, les impressionnistes. Souvent d'ailleurs, on range Van Gogh dans cette école, qui d'ailleurs est déjà connue. Hein, ça fait déjà une dizaine d'années que les impressionnistes ont fait parler d'eux. Est-ce qu'il l'était? Quels étaient ses rapports avec eux?
Bon, il les admirait, bien entendu, mais il appartient au groupe de la génération suivante, qu'on a appelé post-impressionniste. Mais en réalité, il n'est pas vraiment un impressionniste. Il ne cherche pas à peindre la lumière qui est entre l'œil qui voit et l'objet. Il cherche l'objet, il cherche à lui donner toute sa puissance pour affirmer son amour pour lui. Et il va le peindre ou le dessiner d'une façon telle que cet amour et que cette émotion qu'il a ressentie puissent passer dans le tableau. Mais ce n'est pas la lumière qu'il cherche à peindre comme Monet ou Seurat avec des moyens, disons, scientifique.
Et puis ces références, c'est moins les impressionnistes que Rembrandt ou celui qui les a précédés. Vraiment le peintre qu'il admirait le plus, on l'a entendu dans cet extrait de film précédent, c'est Millet.
Oui, Millet, parce que Millet, qui était d'origine paysanne, avait peint les travaux des paysans et Van Gogh l'admire éperdument. Il copiera ses toiles. Toute sa vie, le semeur, il en fera des dizaines de copies, tant en dessin que par la suite en peinture. Et il avait une admiration qui lui venait, parce que Van Gogh, il n'y a jamais eu de paysan dans la famille de Van Gogh, il faut quand même le dire. Personne n'a touché une bêche ou une pioche chez les Van Gogh. Mais quand il était tout petit, il errait dans les champs, parce que son père était pasteur dans un village rural du Brabant, dans le sud de la Hollande, et il était tout le temps dans la campagne. Et c'est là, au contact des enfants de fermiers, qu'il a pris ce goût pour les paysans, les champs de blé, les travaux des champs. Et quand il était petit, il partait jusqu'à des kilomètres de chez lui, tout seul, vers les marais, les rivières, les ruisseaux. Et c'est là qu'il a forgé cet amour. Il le dit dans une lettre, il dit « Ceux qui n'ont pas vu les champs dans leur enfance » et qui ne les ont pas aimés dans leur enfance, ne les peignent pas de la même façon que ceux qui ont été au milieu de cette nature.
Peut-être une de ces raisons, d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles il va quitter Paris, où il a rencontré, vous le rappelez, et même s'est lié d'amitié avec Toulouse-Lautrec, Émile Bernard aussi, qui était un de ses plus proches amis, Signac, ou encore Gauguin, qui allait rejoindre bientôt Vincent Van Gogh à Arles, dans une fameuse maison jaune où Van Gogh arrivait en 1888.
Théo, cette maison te plairait. Les murs en sont jaunes et elle est pleine de soleil. Plus tard, on pourrait y vivre à deux. Un jour, Gauguin viendra peut-être, et alors, qui sait, cela pourrait devenir une colonie de peintres. Je me lève à l'aube et je me mets en route. Maintenant que l'été est commencé, la Provence est devenue tout autre chose qu'au printemps. Mais je l'aime encore plus. Dans tout, il y a du vieil or, du bronze et du cuivre.
Ce qui poussa toujours Vincent à peindre ces incandescents soleils jaunes et tournoyants. Et ce qui en poussa bien d'autres, gueule d'archange, gueule d'apôtre, à se fuir dans tous les miroirs. C'était le même désespoir. Ses pieds, comme la terre à ses souliers. Ce qui a crucifié Vincent sur sa toile durant 30 ans, un pinceau bleu entre les dents. Et ce qui épingla Lautrec sous les lampes comme un insecte. Du Moulin Rouge à la rue Berthe. Oui, ces deux-là et tous les autres, gueule d'archange, gueule d'apôtre, ont-ils enfin trouvé l'espoir de l'autre côté du miroir?
Jean Ferrat, l'homme à l'oreille coupée. L'homme à l'oreille coupée, c'est évidemment Van Gogh, qui arrivait donc à Arles en 1888. Qu'est-ce qu'il était venu chercher à Arles, David Asiaux, et pourquoi Arles et pas Pont-Aven, comme Gauguin, par exemple?
Il était parti dans le Midi. À vrai dire, Arles, on n'a jamais su formellement pourquoi Arles. On a émis plusieurs hypothèses, mais on n'a jamais su vraiment. En tout cas, quand il arrive à Arles en février, et quand on va à Arles en février, le Mistral souffle. Enfin, au moment où il est arrivé, il y avait de la neige, mais très vite, le Mistral se met à souffler. La végétation n'a pas encore exhalé de vapeur d'eau. Le Mistral est un vent très sec. Les contours sont d'une netteté absolue. Et les arbres sont vif argent d'un côté, noir de l'autre. Et ils n'ont pas de feuilles, bien sûr. Et ça le fascine. Et il ne cesse de dire à son frère, à Émile Bernard, son ami, dans des lettres, « Mais je suis au Japon. Je suis au Japon parce que tout est net. Les contours sont nets, comme dans la peinture japonaise. »
Et il y trouve les couleurs qu'il n'y avait pas dans ses premières peintures. Vous le rappelez, c'est vraiment une autre facture. C'est un autre Van Gogh qui se métamorphose, sa peinture aussi. Et puis il veut aussi, on l'a entendu, il veut créer une association d'artistes.
Oui, il veut créer une association d'artistes parce que tous ces artistes du post-impressionnisme, de la seconde génération, comme Toulouse-Lautrec, lui, Émile Bernard et surtout Paul Gauguin, sont dans la misère. Ils n'ont rien. Alors, il pense que s'ils se regroupaient dans une sorte de coopérative, c'est toujours son côté armé du salut, protestant, etc., qui, bien sûr, auprès des Français, n'a aucune chance de marcher, hein, parce que les Français sont des individualistes complets, et ça peut pas prendre.
Et ça n'a pas marché, parce que...
Ça n'a pas marché,
arrive. Alors, il peint énormément, il attend avec impatience Gauguin, qu'il admire énormément. Gauguin arrive, et alors là, c'est, dites-vous, la catastrophe. C'est le pot de terre contre le pot de fer. Il y en a un qui va briser l'autre. Et c'est Gauguin qui va briser Van Gogh. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ce qui s'est passé, c'est que il fait avant même que Gauguin n'arrive, ça, on ne le dit pas souvent, les dés sont jetés déjà. Il a déjà une admiration pour Gauguin qui devient... on peut dire névrotique, quoi. Il voit en lui une sorte de pape, une sorte de chef. Il voit en lui le plus grand peintre qui soit. Il est prêt à s'agenouiller devant lui.
Et alors Gauguin lui fait perdre confiance en lui-même. Il l'avait retrouvé à Arles et on le voit écrire à son frère: « Oh, moi comme peintre, je ne signifierai jamais rien d'important. Je le sens absolument. » Il est vraiment désespéré. Et alors surtout lorsque Gauguin décide de s'en aller, en 88, il se coupe, non pas l'oreille, mais un morceau de l'oreille. Il est interné pendant un certain temps ensuite à Saint-Rémy, d'ailleurs à sa demande, parce que la population ne veut plus entendre parler de cet exalté qu'est Van Gogh. Et puis, on dit qu'il sombre dans la folie. Est-ce qu'il était fou, David Asio ? Est-ce qu'il l'est devenu ? Parce que c'est un mot très vague.
Fou, on ne peut pas dire qu'il était fou. Il a eu des crises, c'est vrai, dont il s'est remis, on ne le dit pas souvent, à peu près complètement vers la fin. Le conflit avec Gauguin était un rêveur. Et Gauguin avait besoin de l'imagination dans ses tableaux. Et Van Gogh, lui, a besoin du réel. D'abord parce que ça le structure et ça le maintient sur terre. Et lorsque Gauguin veut le persuader de quitter le réel et d'entrer dans l'imaginaire, Van Gogh il casse quelque chose, parce que Van Gogh appartient à une famille où tout le monde a des dépressions, où tout le monde est dépressif. Et donc, le réel est une nécessité. Et dès qu'il quitte le réel, c'est fini, il n'y arrive plus.
Alors, il se fait lui-même enfermer à Saint-Rémy de Provence, où il reste un an, puis il rejoint la région parisienne, Auvers-sur-Oise, auprès du docteur Gachet, qui considère, au fond, que Van Gogh est guéri. Il faut dire qu'à ce moment-là, il commence, lui qui n'a vendu aucun tableau, à en vendre un. Ses peintures sont exposées à Bruxelles, au salon des vins. Un critique d'art dont vous parlez beaucoup, David Asio, et qui joue un grand rôle, Albert Aurier, fait des articles très en sa faveur. Et puis, Van Gogh est exposé au Salon des Indépendants à Paris, si bien que personne ne pouvait prévoir son suicide à Auvers-sur-Oise le 27 juillet 1890.
L'exposition a eu beaucoup de succès. Tout le monde a trouvé vos peintures absolument magnifiques. Moi, le premier.
Émile Bernard est venu, une critique, mais au diable les critiques. Le père Tanguy avait l'air très satisfait.
Regardez-le, couvert de peinture. Au travail dès le matin.
Vous avez vu mes fleurs?
À la question, ce garçon est-il malade? Je réponds non. Ce garçon est un peintre sain d'esprit. Cet homme n'est pas malade. C'est un artiste.
C'est Monsieur Van Gogh. Pourquoi il ne mange pas avec nous? Va voir. Va voir ce qu'il fait.
Et c'était le 27 juillet 1890, Van Gogh se tirant un coup de revolver dans la poitrine. Il mourra, faute de soins, il mourra deux jours plus tard, le 29 juillet. Évidemment, un suicide, c'est difficile à expliquer. Artaud, et cette formule, c'est un suicidé de la société.
Oui, il a été victime des marchands, ça c'est certain. On n'a pas été reconnu.
À l'extrême fin quand même.
À l'extrême fin, il est, à partir de Paris, quand il est, lui, à Saint-Rémy, en mars à Paris, à le Salon des Indépendants, et c'est le triomphe de Van Gogh.
Même Gauguin, qui le négligeait un petit peu, reconnaît qu'il était un grand
peintre. Gauguin, qui n'avait jamais reconnu sa peinture, lui écrit une lettre où il lui dit qu'il trouve que sa peinture est une grande peinture.
Alors, il se suicide quand même, mais vous le rappelez, David Asiaux, il y a une lettre très importante. Son frère lui dit qu'il aura du mal, maintenant que le frère Théo est marié, a un enfant, qu'il aura du mal à aider son frère, et Vincent est catastrophé.
Théo, le croyant guéri, puisque tous les médecins et son état, évident, étaient à la guérison, pensait pouvoir lui parler ouvertement. Et il lui dit qu'il a des difficultés financières et qu'il pense se lancer à son compte alors qu'il n'a pas d'argent. Et à partir de là, et il dit il faut se serrer la ceinture, etc., etc. Et à partir de là, Vincent, je crois, c'est ce qui a provoqué le suicide d'une façon effective immédiatement, mais les causes sont plus lointaines. Il lui dit que Vincent pense qu'il ne peut pas laisser cette famille avec la charge qu'il représente.
Ouais. Alors quand on pense que le tableau le plus cher jamais vendu, je crois, dans l'histoire, en 87, c'était les Iris de Van Gogh, qui était vendu 300 millions de francs, c'est-à-dire 50 millions d'euros, et lui est mort dans la misère, en laissant quand même... Quelle est sa place dans la peinture, en quelques mots, David Asiaux?
Il était un isolé, en fait, au milieu de tout ce groupe de peintres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'était pas impressionniste. Mais il annonce l'abstraction lyrique, les fauves, tous les peintres du geste lyrique, comme Hartung, descendent de lui, puisqu'il cherche à libérer le geste. Il disait qu'il voulait peindre comme il écrivait.
Merci David Asiaux. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre biographie passionnante de Van Gogh, publiée aux éditions Gallimard dans la collection Folio Biographie. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, La vie passionnée de Vincent Van Gogh, de Vincente Minnelli avec Kirk Douglas dans le rôle titre et édité en vidéo par MGM, et puis un autre film, Théo et Vincent de Robert Altman. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Éric Mainviel, Dimitri Gronoff, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Franck Oliva et à notre réalisateur d'aujourd'hui, Laurent Polleret.